I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天，原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达米加，正忙着。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. Une émission préparée ce matin par Xavier Martinet, Marie Mougin, mais aussi Clément Salazar, Tiffaine de Rocchini, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde ce matin par Yanis Djoudad. On poursuit notre série consacrée à la déconnexion après les communautés alternatives lundi, après les moines catholiques et les bikous asiatiques hier. Aujourd'hui, Hikikomori du Japon aux États-Unis vers une jeunesse évaporé.
J'ai laissé tomber le lycée et après j'ai cherché des petits boulots, mais personne ne voulait m'embaucher. Alors j'ai fini par renoncer et rapidement j'ai perdu l'envie de me battre. Je suis devenu violent et peu à peu je suis devenu hikikomori.
Je me rappelle clairement qu'il a refusé de sortir de sa chambre. Et c'est là alors que j'ai voulu ouvrir la porte physiquement.
On avance pas à pas avec les hikikomori. Certains sont tout prêts de travailler et on a juste à les accompagner à l'agence pour l'emploi, mais d'autres sont incapables d'interagir avec quiconque. Alors, on leur apporte leur repas dans leur chambre et on commence la relation comme ça.
Hikikomori, un terme japonais qu'on pourrait traduire par retrait, retranchement, confinement, désignant un phénomène de société que l'on retrouve chez certains adolescents et jeunes adultes vivant coupés du monde, enfermés le plus souvent dans leur chambre. Un enfermement volontaire qui peut durer plusieurs mois, voire même plusieurs années. L'estimation du nombre de Japonais touchés par ce phénomène est assez large. On parle de 200 000, voire plus d'un million de personnes pour les évaluations les plus alarmistes, c'est-à-dire presque 1% de la population totale qui s'élève à 127 millions de personnes. Quelle est l'ampleur réelle de ce phénomène des hikikomori, comment le comprendre, quelles sont les raisons de ce retrait, qu'est-ce qu'il nous dit aussi sur la pression exercée par la société nippone envers les individus, et puis comment les familles et plus largement l'ensemble de la société y font face. Nous entendrons ce matin Loren Stretch, un psychiatre anglais réalisateur d'un film sur les hikikomori de l'autre côté de la porte, sorti en 2009 au Japon et plus récemment en France en mars 2015. Et puis on écoutera également Agnès Girard, avec qui on est en train de replacer justement ce phénomène des hikikomori dans un contexte culturel plus large. L'histoire de l'archipel nous montre que cette société nippone, parfois capable d'une grande violence envers elle-même, a régulièrement produit des figures de paria, de bouc émissaire. On essaiera justement de replacer ces hikikomori dans cet environnement culturel et historique global. Et puis enfin, on ira du côté des États-Unis où un psychiatre affirme avoir décelé le premier cas d'hikikomori, un jeune adulte de 30 ans enfermé pendant 3 ans dans son appartement. Alors est-ce que le phénomène aurait traversé le Pacifique Nord pour atteindre les côtes américaines? Est-ce qu'il pourrait s'étendre à d'autres sociétés? Voilà les questions qu'on se posera avec lui. Mais pour évoquer cette question, cette déconnexion très particulière aujourd'hui, c'est Maya Feinstein qu'on a invitée. Bonjour Maya Feinstein.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'Université Paris-Descartes et puis vous avez dirigé avec d'autres auteurs cet ouvrage Hikikomori, ces adolescents en retrait qu'on retrouve chez Armand Collin qui a été publié l'année dernière. Alors c'est vrai que ce phénomène, Maya Feinstein, des hikikomori, il est bien connu maintenant du côté du Japon. En France, c'est encore assez limité. Qu'est-ce qui a conduit une chercheuse française à s'intéresser justement à ce phénomène des hikikomori?
Oui, alors en effet, c'est un phénomène qui est très peu connu, mal connu en France. D'ailleurs, le terme lui-même en général est peu connu, les hikikomori. Moi, je vais parler aujourd'hui au nom d'une équipe plus large. Nous sommes plusieurs chercheurs alors pluridisciplinaires, des sociologues, anthropologues, psychologues, psychanalystes, psychiatres. Et on a commencé à s'intéresser à cette question il y a quelques années à l'initiative de collègues japonais, justement, qui nous avaient contactés. Parce qu'au Japon, la question est très identifiée, et très travaillée, très connue. Mais il y a une sorte de débat qui continue, qui est encore un petit peu vif, sur la question de savoir si c'est une question strictement japonaise ou pas. Et si c'est un phénomène qui est susceptible de s'étendre à d'autres sociétés dites modernes. Donc on a commencé il y a quelques années à travailler sur ces questions-là, du retrait, de la reclusion à domicile, et on s'est rendu compte assez vite que c'était une question qui concernait tout à fait des jeunes Français aussi.
Là, on regardera justement dans quelle mesure est-ce qu'on peut considérer que ce phénomène finalement est beaucoup plus large et va au-delà des frontières japonaises. Mais d'abord, ce syndrome d'isolement, quand est-ce qu'il est apparu du côté du Japon ? Ou alors, pour poser la question autrement, depuis quand est-ce que ce terme « hikokomori » est utilisé ?
Alors, le terme est devenu visible, utilisé, reconnu, surtout dans les années 90, en particulier à la faveur d'un ouvrage qui a connu un succès important d'un psychiatre japonais qui s'appelle Saito, et puis de l'intérêt des pouvoirs publics assez rapidement pour ces questions, qui ont produit aussi des rapports, et les médias également qui se sont emparés de la question. Donc, c'est disons autour des années 90 que la question est devenue très visible. Cette question des...
Très visible d'ailleurs au Japon, mais aussi assez rapidement très visible à l'international. Les médias étrangers s'y sont pas mal intéressés aussi.
Oui, les médias anglo-saxons ont repris, enfin se sont intéressés au Japon, la question des hikikomori au Japon, parce que c'était aussi un petit peu spectaculaire, un petit peu inquiétant, un petit peu exotique aussi, et avec cette figure que, comme celle qu'on a entendue dans le micro tout à l'heure, de jeunes qui sont mystérieusement reclus derrière la porte, avec qui on n'a plus aucun contact. Donc c'était des cas sévères, extrêmes, de retrait.
Mais dans quelle mesure, Maya Feinstein, est-ce qu'on peut considérer réellement que ce phénomène, il est le fruit, j'allais dire, de notre époque ? Est-ce que finalement, il n'existait pas déjà avant sans qu'on s'en soit rendu compte ?
Alors, c'est certain qu'il existait avant, sans doute, et dans plusieurs sociétés, des individus qui choisissent, d'une certaine manière, de vivre en retrait, qui ne participent pas à l'activité sociale, etc. On n'a pas attendu les années 90 pour rencontrer des cas comme ça. Mais la question qui se pose à nous, c'est est-ce que c'est un phénomène collectif ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui devient plus massif, et en particulier pour une génération, que ça pose la question de la jeunesse aujourd'hui, et de ce phénomène qui serait en train de s'étendre auprès d'une population jeune. Et d'autre part, l'autre question, c'est bien sûr, ça existait avant, mais ce n'était pas un problème, comme c'est un problème aujourd'hui, pour plein de raisons qu'on pourrait discuter, mais peut-être que dans d'autres systèmes culturels, à d'autres époques, vivre finalement à la maison, rester chez ses parents toute une vie et ne pas travailler, etc., c'était possible, c'était moins stigmatisé, il y avait une organisation sociale qui le rendait possible, et puis des conditions socio-économiques plus favorables. Aujourd'hui, dans nos milieux urbains, un jeune qui décroche complètement et qui s'isole, c'est évidemment très préoccupant pour la famille, pour les pouvoirs publics, pour la société en général.
Ça concerne combien de personnes ? J'ai dit dans mon introduction, une fourchette très large, 200 000 jusqu'à 1 million de personnes.
Oui, c'est vrai qu'on retrouve des estimations. Alors souvent, on dit justement l'estimation intermédiaire semble la plus réaliste, mais évidemment, par définition, c'est très compliqué de les compter, puisqu'ils sont invisibles et ils ne sont pas là. Donc ce sont souvent des estimations, soit à partir d'études locales. Dans un territoire donné, une préfecture, une ville, on a estimé le nombre de jeunes concernés. Du coup, on étend cette estimation à la population nationale, soit d'autres types d'estimations. Mais on ne sait pas avec certitude combien il y en a. Ce qui est certain, c'est que c'est une préoccupation qui s'articule avec d'autres préoccupations. Peut-être on en parlera tout à l'heure, mais voilà, aussi la question des jeunes qui ne sont plus nulle part, qui ne sont plus en train de suivre des études, qui ne sont plus en train de chercher un emploi, etc.
Si c'est difficile d'évaluer le nombre, c'est aussi peut-être parce que c'est difficile de définir précisément le phénomène. D'un point de vue, disons, médical, c'est-à-dire quasiment psychiatrique, comment est-ce qu'on pourrait définir ce phénomène des hikikomori ? Est-ce que c'est une forme d'agoraphobie, de dépression, de schizophrénie ? Rien de tout ça. Est-ce qu'il s'agit d'une pathologie mentale ou pas ?
Alors, c'est un débat ouvert.
Vous n'êtes pas psychiatre, vous êtes sociologue, mais quand même.
Alors, c'est un débat ouvert depuis le début. Alors, c'est sûr qu'au Japon, lorsque cette catégorie hikikomori a commencé à se répandre, une définition officielle a été donnée assez rapidement, dans des rapports de ministères, etc., qui disait la chose suivante : hikikomori, c'est un jeune homme, en général, puisque c'est bien souvent un garçon, en tout cas une jeune personne qui vit retirée à domicile depuis au moins 6 mois, sans qu'un trouble psychiatrique ait pu être opéré comme à l'origine du retrait. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des comorbidités psychiatriques, qu'il n'y a pas la question psychiatrique qui peut jouer éventuellement, mais en tout cas, il n'y avait pas d'explication directe.
Voilà. Ce n'est pas déclencheur dans le retrait.
Ce n'est pas déclencheur dans le retrait, ce n'est pas visible immédiatement. Donc c'est vrai que la question du hikikomori, c'est une énigme à la base, c'est-à-dire des jeunes gens qui semblent, pour plein de raisons, relativement insérés, qui allaient plutôt bien à l'école, qui avaient une scolarité normale, etc., et qui, un beau jour, cessent de se rendre à l'école ou à l'université, et cessent finalement, nous, ce qu'on aime bien dire dans notre équipe de recherche, la définition qu'on retiendrait, nous, ce sont des jeunes qui se retirent de toutes les attentes sociales et familiales à leur égard. Ils ne répondent plus à aucune de ces attentes.
Alors après, il y a évidemment plusieurs formes de retrait. Vous distinguez trois grandes formes. Le retrait, disons, alternatif, le retrait réactionnel et le retrait chrysalide. Est-ce que peut-être vous pouvez nous décrire ces différentes formes? Pourquoi avoir effectué cette distinction? Ce qui va nous permettre évidemment aussi de comprendre les raisons qui poussent à cet isolement.
Oui, alors en réalité, ce qui nous intéresse, c'est donc de partir de cette catégorie. Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant, cette catégorie d'hikikomori? Elle vient pointer quelque chose que, habituellement, on ne décèle pas immédiatement, c'est le retrait. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, on va aisément repérer des jeunes en difficulté qui se déscolarisent, qui ne vont plus à l'école, etc. Mais on va qualifier ça autrement. On va appeler ça volontiers des décrocheurs, par exemple, ou on va parler de phobie scolaire. Donc l'accent, le focus va être mis sur l'école en France, très volontiers. Et du coup, il nous semble qu'on perd un peu de vue une dimension qui nous semble intéressante à examiner et qui est un peu mystérieuse et énigmatique, c'est pourquoi choisir ce mode-là.
Pourquoi l'isolement en particulier, pourquoi l'isolement, cette forme.
Pourquoi un cocon à l'intérieur, bien souvent, de la sphère domestique et familiale. Donc ça engage toute une réflexion sur aussi la famille. Hein. Et c'est un phénomène qui englobe l'intégralité de la famille, pas seulement l'individu. Et donc dans cette petite typologie que vous rappelez, moi ce que j'ai essayé de faire avec mes collègues, c'est de réfléchir, parce que comme vous l'avez dit, à l'intérieur de ce fourre-tout qui est hikikomori, il y a à la fois peut-être des cas très graves qui relèvent de la psychiatrie, d'isolement très sévère, etc. Mais il y a aussi des jeunes qui vivent pendant quelques mois, quelques années, une période d'isolement, de retrait, qui vont servir à peut-être changer, vivre de manière un peu alternative autre chose pour ensuite reprendre le cours d'une vie dite normale.
Ça, c'est le retrait alternatif.
Voilà.
Le retrait réactionnel.
Le retrait réactionnel, c'est plutôt des jeunes pour lesquels le retrait va servir dans une situation de grandes difficultés, de violences parfois familiales, etc. Donc le retrait va ici intervenir d'une façon de protection, une manière de suspendre un petit peu le temps face à ces difficultés, de pouvoir se reconstruire avant de les affronter d'une certaine manière. Donc on comprend pourquoi il y a retrait, parce qu'il y a des conditions objectives très difficiles qui peuvent éventuellement expliquer ce retrait.
Et la dernière forme, la plus dernière trouble
forme,
peut-être.
Voilà, le retrait chrysalide, c'est peut-être le plus mystérieux, c'est peut-être celui qui est le noyau des hikikomori japonais les plus mystérieux, etc. Ce sont ces jeunes qui manifestent une forme d'impossibilité à devenir adulte. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui se sont arrêtés en chemin entre l'enfance et l'âge adulte dans une zone intermédiaire, une zone blanche, une suspension. Et pour des raisons qu'on pourrait discuter, il leur est impossible d'accéder à l'étape supérieure. Donc c'est une sorte de pathologie du seuil. On s'arrête à ce seuil-là de l'entrée dans la vie adulte, dans une espèce d'éternelle prison.
Et vous dites qu'il y a une chose qui est frappante chez ces jeunes personnes, c'est qu'ils n'ont finalement pas de discours sur leur propre retrait du monde. Ils ne sont pas véritablement en colère, ils n'ont pas de discours critique sur la société, ils n'ont pas véritablement l'ambition de tendre vers un autre mode de vie. Ça, c'est assez frappant.
Oui, c'est
pas
ça.
Pas de discours réflexif.
Exactement. C'est pas de discours réflexif et c'est ce qui d'ailleurs est très déroutant pour les familles également et pour les personnes qui essayent de prendre en charge ces jeunes gens éventuellement. C'est qu'il n'y a pas de colère, il n'y a pas de révolte, il n'y a pas non plus d'adhésion à des valeurs collectives, par exemple, l'idée de construire une société sur d'autres valeurs.
Politique.
Pas de projet politique.
Ouais.
Pas d'appartenance à une communauté. Peut-être on parlera d'autres formes de communautés au Japon qui se sont construites autrement. Donc c'est très déroutant parce qu'il n'y a pas d'élaboration, il n'y a pas de discours, en tout cas pendant la période de retrait, bien souvent. Et en même temps, pour certains, alors il y a des cas très différents, mais pour certains, certains jeunes nous disent « mais nous, dans un premier temps, ce que je ressentais, c'est un grand soulagement. Je ne suis pas malheureux, je ne cherche pas autre chose, je suis bien. Je veux pas, voilà, je suis bien dans cet instant présent, dans cette non-temporalité-là. Ce qui devient préoccupant, c'est dès lors qu'il faut envisager l'avenir, où là, effectivement, bien sûr, les inquiétudes reviennent.
Quand on regarde Maya Feinstein, le profil de ces personnes, plutôt des filles, plutôt des garçons, alors on entendait justement, il faudra peut-être essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que tous les milieux sociaux sont concernés? Est-ce qu'on en trouve davantage du côté des classes populaires, par exemple?
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que dans la littérature japonaise en particulier, on a toujours insisté depuis le début sur le fait que c'était un phénomène très masculin. On parle de 80% parfois de garçons par rapport aux filles.
Pour quelle raison?
Alors, il y a plusieurs raisons qu'on pourrait mettre en avant. Ce qu'il faut juste dire, c'est qu'il faut être prudent néanmoins sur ces chiffres, parce qu'il est possible qu'ils soient majorés par le regard culturel qu'on a sur la question. C'est-à-dire que, bien entendu, dès lors que il s'agirait d'une fille qui reste à la maison, c'est moins problématique, une fille à la maison. C'est plus normal, d'une certaine manière. Donc, on s'en inquiète moins.
Dans la culture japonaise, et d'ailleurs, on pourra l'élargir, finalement, une fille qui reste, qui passe du temps chez elle, c'est plus normal, entre guillemets.
C'est plus normal, c'est-à-dire que c'est plus conforme aux règles culturelles de la féminité qui s'occuperait de la maison, du foyer, etc. Donc, on s'en alarme moins.
Peut-être que le phénomène est moins visible.
Évidemment, un garçon, on attend les attentes sociales à l'égard d'un garçon, c'est qu'il soit engagé à l'extérieur du domicile, qu'il soit actif, etc. Donc on va davantage s'en inquiéter dès lors qu'il est reclus à la maison. Donc en tout cas, donc il faut être peut-être prudent sur ces statistiques, mais néanmoins ça reste quand même une question assez masculine et il faut prendre ça au sérieux. Évidemment, ça nous questionne beaucoup sur des coordonnées sociales, anthropologiques des pays modernes actuels, c'est-à-dire sur qu'est-ce que c'est qu'être un jeune homme, qu'est-ce que c'est que devenir homme aujourd'hui, et pourquoi pour un certain nombre de jeunes c'est difficile, voire impossible d'accéder à ce statut-là.
Et peut-être que justement au Japon, c'est précisément un peu plus difficile pour les garçons que pour les filles. Peut-être que la construction identitaire des garçons est plus difficile. J'avais une hypothèse, hein, j'en sais rien. Au Japon en particulier, alors, pour les garçons que pour les filles.
La destinée des filles n'est pas forcément très facile non plus au Japon. Ouais. Mais alors, il y a plusieurs hypothèses qui ont été avancées sur lesquelles le débat scientifique continue d'être virulent. Alors, il y a eu une question aussi qui mettait en avant des caractéristiques culturelles du Japon autour de ce qu'on appelle l'amae, c'est-à-dire une certaine forme de lien d'attachement avec la mère. Et qui rendent plus difficile justement cette autonomisation d'une certaine manière. Mais il y a d'autres hypothèses qui ont été de dire peut-être dans une et qui sont moins culturalistes, moins liées à la question japonaise. C'est justement intéressant de prendre la mesure d'un phénomène qui serait comme le miroir inversé de nos injonctions fortes. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés, et ça c'est valable pour la France autant que pour le Japon, qui commandent à ces individus et à ces jeunes hommes en particulier de manifester le fait qu'ils sont autonomes. Et autonome, c'est quoi ? L'autonomie, c'est manifester le fait qu'on est capable de s'auto-contrôler, comme dit un sociologue qui s'appelle Alain Ehrenberg, s'auto-contrôler, mais aussi s'auto-activer. C'est-à-dire qu'il faudrait sans arrêt montrer qu'on est en projet, en motivation, en train de faire des choses, etc. C'est très intéressant, du coup, de prendre la mesure d'un phénomène qui est l'exact inverse de ça, des jeunes qui ne sont plus en projet.
Alain Ehrenberg, qui est l'un des auteurs, hein, qui participe en tout cas à votre ouvrage, qui a écrit la préface. Vous parliez d'autonomie, justement. Peut-être que cette autonomie, elle est plus difficile, c'est même certain, en temps de crise. Docker, en Japon, considère que ces jeunes sont peut-être aussi le signe de cette crise économique qui a déferlé sur l'archipel dans les années 90, cette fameuse décennie perdue dont on a beaucoup parlé du côté du Japon. Oui. C'est une hypothèse...
Oui, c'est une hypothèse qui a été avancée, c'est-à-dire de mettre en avant le fait que, bien entendu, la génération actuelle des jeunes aujourd'hui est une génération qui est confrontée à des conditions de vie, surtout à des conditions de perspective d'avenir qui sont très différentes des générations précédentes, en raison bien sûr des taux de chômage, en raison des difficultés d'accès au marché du travail et aussi en raison, disons, de l'incertitude concernant le futur généralisé de manière générale. Mais il faut être là aussi prudent parce que ça n'expliquerait pas... Enfin, autant ça peut expliquer des difficultés propres aux jeunes, mais ça n'explique pas pourquoi ça prendrait cette forme-là qui est le retrait.
Si on regarde un peu la dynamique globale en ce moment, est-ce qu'on note une aggravation du phénomène ? Est-ce qu'au contraire, plutôt une régression ? On arrive un peu à mesurer ça ?
C'est très difficile d'avoir une mesure exacte du phénomène.
Si on le corrèle au contexte économique, on peut penser que la crise passée, même si tout n'est pas parfaitement reparti du côté du Japon, on le sait, il y a encore des difficultés économiques très importantes, on n'est pas non plus dans les taux de chômage qui existaient dans les années 90.
Oui, c'est pour ça que ça ne peut pas être une explication strictement économique. Ouais. Il y a vraiment une question du rapport aux normes, du rapport aux valeurs collectives, etc. La question, est-ce que c'est en progression ? Il semblerait que oui, à entendre tous les professionnels de terrain avec qui on parle en France, tous s'accordent pour dire que des cas de ce type, ils les rencontrent de plus en plus et tous les jours. Hein, simplement, on les nomme pas nécessairement de cette manière-là, l'étiquette est différente, mais des situations de jeunes gens qui vivent reclus, utilisent beaucoup les écrans et peuvent donc pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années, vivre cette situation, sont de plus en plus fréquents. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a le hikikomori, mais ce qui semble progresser, c'est toute une série de conduites des jeunes qu'on vient là aussi analyser avec d'autres termes, qui ne sont pas forcément le retrait, mais peut-être on en parlera. La catégorie de NEET, par exemple, c'est l'acronyme anglais, N-E-E-T, c'est bien désigner des jeunes qui ne sont ni en train de suivre une formation, ni en train de chercher d'être en emploi, ni en stage. C'est des ni-ni-ni, d'une certaine manière, des jeunes qui ne sont nulle part. Ce qui est intéressant, c'est que désormais, cette catégorie-là, elle fait l'objet de statistiques officielles de la Communauté européenne ou de l'OCDE. Donc on va mesurer la part des jeunes qui ne sont nulle part pour des raisons multiples. Alors ça peut être à la fois parce qu'ils sont victimes, entre guillemets, du système économique difficile qui est le leur, mais ça peut être aussi parce qu'ils ne participent plus, ils ne s'engagent plus, ils ne sont plus motivés à participer au projet collectif, au projet social, au projet d'emploi, par exemple.
Et ça va être les NEET du côté de la Grande-Bretagne, ça va être les Bamboccioni en Italie.
Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est tous ces petits mots qui sont apparus aussi un peu dans les années 90, c'est pour ouais. ça que c'est intéressant.
Qui montrent, bien sûr, évidemment, c'est difficulté peut-être à comprendre cette jeunesse, mais aussi, surtout, à l'inclure dans nos sociétés contemporaines. Les éléments déclencheurs, Maya Feinstein, de tout ça, est-ce qu'on a une idée un peu de ce qui déclenche ? Est-ce que, par exemple, le poids, vous parliez tout à l'heure de l'école, le poids du parcours scolaire, l'échec scolaire peut être justement déclencheur de ce phénomène d'isolement ?
Alors, ce qui nous semble intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on dit beaucoup sur le décrochage, les politiques publiques s'intéressent beaucoup au décrochage et à l'échec scolaire, c'est vrai au Japon et aussi dans les cas français qu'on a pu analyser, la plupart de ces jeunes ne sont pas des jeunes qui ont des difficultés scolaires majeures, c'est-à-dire que ce n'est pas des jeunes qui ont des problèmes avec l'école ou des difficultés à l'école. Bien souvent, ils ont eu un parcours scolaire bon, voire brillant. Simplement, du jour au lendemain, d'une certaine manière, ils ont cessé d'investir l'école, cessé d'investir plus généralement les normes sociales. Et ça demeure relativement mystérieux. Alors ça ne veut pas dire que l'école n'a pas de poids. C'est très intéressant de se dire que dans les sociétés japonaises comme dans les sociétés françaises, on est dans un système où, disons, de pression scolaire au sens large. Mais peut-être d'une autre manière, ce n'est pas tellement la pression au moment de l'école, c'est la pression dans le sens où, en France, par exemple, on peut examiner ça, c'est très difficile de ne pas avoir un parcours linéaire scolaire. C'est-à-dire que dès lors que vous... faites des allers-retours, que vous ne suivez pas un parcours strict, etc., c'est quelque chose qui est mal toléré. Vous avez du mal à raccrocher. D'accord ? On est un des rares pays dans lequel, à 40 ans, vous continuez d'écrire sur votre CV le lycée que vous avez fait. Donc il y a cette idée que le parcours doit être linéaire et va surtout déterminer de façon massive votre destinée sociale. Donc c'est en ce sens-là qu'il y a une pression forte. C'est-à-dire que les choix, on a le sentiment subjectif que ces choix vont être extrêmement déterminants et qu'il y a peu de retour en arrière possible.
Mais donc ça veut dire que c'est quand même extrêmement difficile pour l'école. Je parle là pour le cas du Japon, en particulier parce que vous me dites que du côté du Japon, il n'y a pas forcément de lien, de corrélation directe entre échec scolaire et phénomène d'isolement. Ça veut dire que pour l'école, c'est un défi quasiment impossible à relever que de voir venir ce type de phénomène-là, que de repérer.
Alors, ce n'est pas forcément dans l'échec scolaire, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème d'apprentissage. Ouais. En revanche, c'est parfois un problème, disons, d'intégration
dans le
système, dans le groupe de pairs. Ouais. Souvent, la question des pairs se pose. On ne supporte plus de se confronter à eux, ou on a peur du regard, etc., qui est porté sur eux. Mais la question scolaire est engagée là-dedans, très fortement, sur comment on peut répondre à des situations comme celle-là. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, au Japon comme en France, on est un peu démunis, on ne sait pas quoi faire. Les jeunes se déscolarisent et on les renvoie, alors en France, à un système de soins annexe en dehors de l'école, médico-psychologique, pour le dire vite, grâce au système de médecine scolaire, de psychologie scolaire, etc.
Et il y a un début de réponse sur le Japon. Est-ce qu'il y a des initiatives qui ont été mises en place, justement, pour essayer de faire, à l'échelle de l'école, quelque chose pour les repérer ?
Alors, à l'échelle de l'école, c'est encore très difficile au Japon d'intervenir au sein de l'école. En revanche, au Japon, il y a une structure, il y a un marché extrêmement large des structures d'accueil de ces jeunes hikikomori en dehors du système scolaire à strictement parler.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde cette semaine autour de la déconnexion aujourd'hui. Hikikomori du Japon aux États-Unis vers une jeunesse évaporée. Hikikomori, regardez par exemple Hiroshi. Hiroshi, c'est un jeune garçon qui vit dans une banlieue de Tokyo, qui un jour, en rentrant de l'école, justement, s'enferme dans sa chambre, de laquelle il ne sortira que 2 ans plus tard. Alors là, c'est une fiction, mais c'est une fiction qui est inspirée de faits réels, extrait d'un film sorti très récemment en France, De l'autre côté de la porte.
Ouvre-moi.
Hiroshi.
Qu'est-ce que tu as ? Réponds-moi. Ça suffit. Allez, sors de là. Sors et parle-moi. Tu ne veux pas parler ? Pourquoi ne sors-tu pas ?
Ça ne te regarde pas.
Pourquoi es-tu malheureux ? Ce n'est pas une excuse pour ne pas aller à l'école depuis 2 semaines. Si tu ne parles pas, je ne peux pas t'aider.
Laisse-moi, sors d'ici.
Voilà, extrait donc de l'autre côté de la porte, de longs mois d'isolement à travers le regard d'une mère, d'un père, d'un jeune frère qui essaye tant bien que mal de comprendre l'isolement de ce jeune adolescent. On va retrouver justement le réalisateur de ce film, Lauren Stretch, donc ce film de l'autre côté de la porte. Alors Lauren Stretch, il avait découvert ce phénomène sur un documentaire sur la BBC. Alors pour réaliser le film, il a mené un long travail de recherche. Son scénario, il est inspiré de faits, d'expériences réelles, issues de témoignages qu'il a recueillis lors de ses rencontres au Japon avec des familles, avec des hikikomori. Derrière la caméra, il s'est principalement focalisé sur l'attitude d'Hiroshi, justement, ce jeune garçon, et sur ses répercussions sur l'ensemble de sa famille. Comment les actes d'un membre de la famille rejaillissent sur les autres. Comment une famille peut continuer à vivre, à partager des repas, par exemple, tandis que l'un des leurs vit reclus dans sa chambre, dans un exil qui s'est lui-même imposé. C'est tout cela qu'essaye de comprendre Lauren Stretch à travers cette œuvre de fiction qui est filmée en noir et blanc. Quel regard, justement, pose-t-il sur ce phénomène ? Pourquoi est-ce qu'il l'a choisi comme sujet de son film ? Lauren Stretch est au micro de Marie Mougin.
Ce que j'ai retenu de tous mes entretiens avec ces garçons et ces filles, c'est qu'il y avait une sorte de rébellion dans ce qu'ils étaient en train de faire. Ils essayaient de trouver une manière d'échapper au système. Et au Royaume-Uni ou aux États-Unis, ce genre de comportement est relativement accepté. Les jeunes gens peuvent se rebeller, ils peuvent devenir des marginaux, partir à la recherche de votre propre voie, avoir des différends avec leurs parents. Vous pouvez avoir ce genre d'expression pour partir à la recherche de votre propre identité. Alors qu'au Japon, je n'ai pas trouvé que les enfants aient réellement cette opportunité d'exprimer leur individualité, ni la possibilité de chercher leur propre voie. Donc cette attitude, c'est un peu le seul moyen qu'ils ont de se rebeller. Et c'est ce qui m'a intéressé, explorer cette forme de rébellion adolescente très différente de ce que l'on peut connaître.
Le phénomène des hikikomori est assez mal vu au Japon. Quelle a été justement la réception de votre film dans ce pays ?
J'ai eu des retours, comme quoi plus de sociologues allaient se consacrer à ce sujet et que de la part du gouvernement, des actions et des mesures allaient être prises. Mais je ne peux absolument pas savoir si cela aura un réel impact sur le long terme. Au Japon, les personnes étaient directement concernées et touchées par cette histoire. C'était très important pour eux qu'un film soit réalisé sur cette pathologie, qui est relativement taboue au Japon. Alors qu'aux États-Unis, l'intérêt était beaucoup plus universitaire.
Et selon vous, comment se fait-il que l'on détecte de plus en plus de cas de hikikomori dans le monde ?
Vous savez, avec la crise économique, on voit de plus en plus d'histoires de personnes qui cherchent à se battre contre toutes ces formes de pression et qui essaient de trouver des manières de s'en sortir. Je vis aux États-Unis et je pense que culturellement, il y a une tendance à l'individualisme. La mécanisation du capitalisme n'accorde plus vraiment de valeur aux relations humaines. Alors les individus cherchent de nouvelles raisons d'être. Ils sont en quête de sens. Et oui, je pense que c'est un problème mondial.
Lauren Stretch, donc réalisateur britannique de ce film De l'autre côté de la porte, au micro de Marie Mougin, De l'autre côté de la porte, qu'on peut voir en ce moment dans quelques salles, hein, pas beaucoup, mais dans quelques salles du côté de la France. Il vient de sortir au mois de mars dernier. Maya Van Steen, réaction peut-être autour de ce film que, évidemment, vous avez beaucoup vu. Puis moi, j'aurais une question en particulier, mais je vais vous laisser peut-être réagir librement, mais une question en particulier sur la question de comment est-ce qu'on retisse des liens avec ces enfants-là. Parce que dans le film, on a M. Satsugu Kudo qui joue son propre rôle, qui en fait travaille dans un centre d'assistance à la jeunesse. Et on le voit dans ce film se rendre justement chez Hiroshi pour lui parler à travers la porte. Il y a de longues séances de négociations, des échanges verbaux qui sont très difficiles à mettre en place. Et la question que je me posais, c'est comment est-ce qu'on fait précisément pour renouer avec un hikikomori.
Alors tout à fait. D'abord, je voudrais souligner que c'est vraiment effectivement un très beau film sur ce sujet et qui pose bien les questions et qui déroute parfois quand on voit ce film, notamment parce que, comme dans l'extrait qui vient d'être passé, on voit que les parents Le père en particulier, à un moment, essaye de forcer la porte et de faire sortir de là. Il n'y arrive pas. Et je me souviens que dans certaines salles, les gens disaient « mais nous, ça ne pourrait pas arriver en France parce qu'on ne pourrait pas laisser des années comme ça un jeune derrière la porte sans le faire sortir ». Et il faut savoir déjà qu'en réalité, oui, ça existe aussi en France. Nous, on a rencontré des situations exactement comparables. Donc, ce n'est pas si simple de penser que c'est parce que c'est le Japon qui a une difficulté à exprimer les sentiments ou qu'il y a une culture de la honte, etc. Il y a des choses semblables qui se produisent en France. C'est très difficile lorsqu'on se trouve face à un jeune qui est dans cette situation, de le sortir de force, d'abord parce que la force est une violence difficile à supporter pour quelqu'un qui est dans une position très vulnérable. Et donc ça pose tout à fait la question de comment faire, comment le sortir de là, est-ce qu'il faut sortir de là, quelle main tendue. C'est vrai que dans le film, on voit bien un type d'intervention qui s'est développé au Japon et qu'on connaît mal, nous, en France, c'est-à-dire cette personne qui vient à plusieurs reprises pendant un temps très long se poster presque derrière la porte, lui parler tout doucement et prendre le temps jusqu'au moment où la porte peut un petit peu s'ouvrir, où un lien peut s'établir. Il y a des structures au Japon qui fonctionnent comme ça aussi. Il y a un endroit qui s'appelle New Start au Japon qui a créé une structure d'accueil pour les jeunes hikikomori, entre autres, et qui a développé un système qu'ils appellent des grandes sœurs ou des grands frères de location, des rental sisters. C'est-à-dire que ce sont souvent d'ailleurs d'anciens hikikomori eux-mêmes qui vont aller pendant un temps qui peut aller très long, pendant un an parfois, inlassablement frapper à la porte d'un jeune pour lui tendre la main. Alors pourquoi ils appellent ça sister, rental sister, grande sœur? C'est parce qu'il y a l'idée qu'il faut reconstituer une sorte de cellule familiale virtuelle, comme ça, dans laquelle on peut se sentir proche de quelqu'un. Donc c'est une sorte de grande douceur qui est proposée pour retendre la main, et parfois dans un temps très long. Il existe aussi d'autres formules beaucoup plus médicales, beaucoup plus psychiatrique, dans laquelle on peut aller jusqu'à l'hospitalisation et le traitement médical, parce que c'est adapté à certains cas.
On va retrouver à présent un nouvel invité par téléphone, c'est Agnès Giard. Bonjour Agnès Giard.
Bonjour,
merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes écrivain, vous êtes journaliste, une spécialiste du Japon, auteur entre autres des histoires d'amour au Japon. C'était pour le dernier ouvrage qui était paru aux éditions Drugstore il y a quelques années, en 2011. Quel regard vous portez, Agnès Giard, sur ce phénomène en général? Et puis peut-être en particulier, on parlait à l'instant justement de psychiatrie, sur cette manière de, j'allais dire, psychiatriser, pathologiser finalement ce phénomène des hikikomori. Est-ce que vous diriez qu'il y a peut-être là une forme de travers de la psychiatrie, peut-être de la psychiatrie occidentale en particulier, dans l'appréhension de ce phénomène, Agnès Giard, vous qui connaissez bien le Japon?
Alors, effectivement, je pense que suivant l'exemple du créateur de l'ethnopsychiatrie, Georges Devreux, et des élèves qu'il représente en France comme Toby Nathan, il faudrait peut-être appréhender la maladie sous un angle social et culturel, ce que fait d'ailleurs Maya Feinstein. Il y a des maladies propres à certaines sociétés, et pour les comprendre, il est parfois inadéquat, maladroit, voire contre-productif de les examiner comme des pathologies qui seraient dues à des carences ou des déficits en globules, en vitamines ou en affections, par exemple. Les maladies, en fait, s'expriment dans un code culturel qui est spécifique et ne peuvent être abordées, voire soignées, que si l'on prend en compte le contexte dans lequel elles apparaissent.
Mais ça veut dire, pour très bien vous comprendre, Agnès Giard, que pour vous, ce phénomène-là, il est spécifiquement japonais, c'est le symptôme d'un dysfonctionnement sociétal nippon?
Non, bien sûr que non. C'est-à-dire, la société japonaise n'est pas la seule à fonctionner actuellement comme elle fonctionne. Donc il est tout à fait normal de voir apparaître ce type de trouble dans des sociétés qui imposent un peu les mêmes normes, les mêmes standards de réussite individuelle à ses membres, comme c'est le cas effectivement aux États-Unis ou en Occident, dans les sociétés industrielles, contemporaines, etc. En fait, je pense que il y a bien sûr un trouble qui est à l'origine du phénomène, des troubles plutôt, c'est une galaxie, mais les gens, d'une certaine manière, choisissent un mode d'expression du trouble. Et les hikikomori, pour une part d'entre eux, choisissent de se retirer d'un circuit, ce qui représente un désordre sur le plan social, mais ce désordre correspond à un système de représentation.
Agnès Giard, il y a peut-être une certaine catégorie de personnes au Japon, une figure bien particulière qui peut faire penser d'une certaine manière au hikikomori. Je pense au otaku, qui est une figure bien connue au Japon. C'est un terme qui désigne cette personne qui consacre une grande partie de son temps à des activités d'intérieur. Ça peut être la lecture de manga et c'est surtout, bien sûr, les jeux vidéo. Vous voyez un lien, justement, vous, entre ces otaku et ces hikikomori?
Oui, Le mot japonais otaku, qui veut dire chez soi, est créé dans les années 1980 pour désigner d'abord de façon stigmatisante essentiellement des jeunes hommes socialement inadaptés qui s'enferment dans un monde imaginaire et qui sont donc incapables de se confronter à de vraies femmes ou à la réalité en général. Et puis ce terme, dans les années 1990, est progressivement associé à l'idée d'une culture jeune, incluant aussi des femmes. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que les otaku, qui au début sont vraiment des introvertis, des incapables, des losers, qui cultivent leurs fantasmes à l'abri du monde réel, eh bien en fait c'est des gens qui sont très rentables. C'est-à-dire que dans le contexte de l'explosion des mangas, des dessins animés à l'international, le gouvernement japonais prend conscience que la culture otaku est très rentable. Et met au point donc toute une politique autour de ce qu'on appelle le soft power.
Culture très rentable. Oui, allez-y. Poursuivez.
Pardon, excusez-moi.
Je vous en prie, poursuivez.
Et du coup, les frontières de la stigmatisation sont repoussées et reportées sur les hikikomori.
Vous parliez de loser à l'instant. C'est vrai que c'est des figures particulièrement stigmatisées par l'ensemble de la société et peut-être par les médias eux-mêmes. Comment vous analysez justement cette manière dont on présente ces personnes-là dans l'espace public, alors que ce soit à travers l'opinion, j'allais dire en général, mais peut-être en particulier les médias? Alors, c'est une figure de paria d'une certaine manière, non?
Oui, tout à fait. Avec l'idée d'une épidémie possible. Donc en plus, ils sont contagieux, attention. J'avais trouvé un article de 2013 du journal Sankei qui parlait donc des 8000 hikikomori recensés en 2013 à Yokohama et qui disait mais potentiellement ça touche 60 000 personnes. Donc attention, surveillez autour de vous les personnes et puis donnez une liste des symptômes possibles. Actuellement, donc dans la société japonaise, peut-être aussi sous l'influence de ce psychiatre, psychologue, Monsieur Saito, qui avait prétendu que 1 million de personnes étaient frappées au Japon uniquement pour un peu alerter les médias et faire le buzz, il y a une forme de hantise. Est-ce que je vais être touchée moi aussi?
Encore une question et puis je passerai la parole à Maya Fanstein pour la faire réagir, mais je parlais de figures de paria. L'histoire du Japon, la culture japonaise en est pleine. Si on pense par exemple au burakumin, qui veut dire la personne du hameau, qui dès l'époque féodale était mise à l'écart, mise au banc de la société, condamnée d'ailleurs à rester à l'écart de la société sous l'effet d'une ségrégation sociale très bien organisée. Est-ce que finalement le hikikomori, il est un peu dans cette filiation-là?
Alors, peut-être effectivement qu'on peut établir le lien avec ces personnes qui occupent des zones liminaires. Donc, en fait, après la prise du pouvoir du clan Yamato vers le VIe siècle, le système idéologique qui se met en place établit l'existence de zones qui sont dites impures, désignées comme la source des épidémies et des calamités, notamment les montagnes, le lit des rivières, les bords de mer, etc., sont désignés comme des lieux de sauvagerie où vivent des êtres qui sont chargés d'intercéder avec les forces invisibles et qui sont progressivement appelés non-humains, hinin, et qui est devenu burakumin. Donc ils sont un peu victimes d'exclusion, privés de tous les droits, renvoyés dans le territoire un peu de l'invisible. De ce point de vue-là, peut-être, oui, il serait possible de dire que les hikikomori, qui sont actuellement victimes de stigmatisation, remplissent la charge d'occuper un territoire qui est celui des boucs émissaires, finalement. Et grâce à eux, la société tout entière peut, d'une certaine manière, se rassurer sur elle-même. D'un côté, il y a les gens normaux, et puis de l'autre, les personnes qui ne correspondent pas aux normes.
Renvoyer dans les territoires de l'invisible. Maya Fanstein, réaction?
Oui, tout à fait. Je trouve que c'est tout à fait intéressant de voir les choses comme ça. Il faut souligner que ça pose aussi la question de la place que nos sociétés laissent aux jeunes. Parce que la question de la stigmatisation, elle a été présente au Japon, mais elle est présente aussi. On a rappelé tout à l'heure tous ces petits mots qu'on a inventés dans les années 90. Nous, en France, on a parlé de tanguy. Il y avait des équivalents en Italie, etc. C'est pas la même chose, mais on voulait dire par là un petit peu tout de même qu'il y avait une génération un peu flemmarde, de jeunes qui restent à la maison, qui se laissent vivre, qui se la coulent douce, etc. Mmh. Je me souviens qu'au Japon, il y a aussi eu un best-seller qui venait désigner ces jeunes qui étaient qualifiés de « parasite singles ». Donc ces célibataires parasites qui, le mot est fort tout de même, qui vivent au crochet de leurs parents et qui n'ont pas l'intention de faire des efforts particuliers. Donc il y a un regard assez dur qui est porté aussi sur une certaine génération, une certaine jeunesse. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que ce qui est intéressant de réfléchir, c'est comment ça se fait que ça prend cette forme-là, cette grammaire-là. C'est-à-dire que le désarroi, la détresse, elle s'exprime d'une manière qui est limitée culturellement. Elle ne peut pas s'exprimer n'importe comment. C'est lié aussi à des références et à des normes culturelles. Mmh. Il devient intéressant dès lors de se demander si ce n'est pas une nouvelle grammaire du désarroi qui est aussi rendue possible par le fait que ce n'est pas uniquement les individus à qui il manque quelque chose sur un plan psychiatrique, neurologique, etc. C'est une organisation sociale et c'est aussi une organisation familiale. C'est-à-dire que pour faire un hikikomori, pour qu'il y ait un hikikomori, il faut qu'il y ait une famille qui repose sur des liens affectifs valorisés suffisamment forts pour qu'on considère que notre jeune vulnérable, il faut qu'on le protège. Mmh. Qu'on le nourrisse, qu'il reste chez nous, etc. Il faut aussi qu'il y ait cette culture de la chambre individuelle qui rend possible qu'on ait un espace à l'intérieur de l'espace, qui soit le nôtre. Et puis, sans doute, les technologies, les nouvelles technologies, permettent également des retraits de très longue durée dans des conditions et selon des coordonnées particulières, qui est d'être... Alors, votre émission, cette semaine, porte sur la déconnexion, qui vient justement interroger la déconnexion, qui n'en est pas totalement une, puisqu'on reste connecté à certains égards, mais d'une manière qu'on maîtrise.
Et puis en plus, les deux mondes parfois se retrouvent, et notamment dans la production culturelle. Vous disiez tout à l'heure, Agnès Jarre, à juste titre, que les otaku, ce phénomène avait été repris dans des mangas, dans des séries télé. C'est exactement la même chose sur les hikikomori. Il y a une série, par exemple, qui s'appelle Welcome to NHK, Bienvenue dans la NHK, qui est exactement ça, qui est un manga qui est basé sur une nouvelle, et on suit l'histoire du retour à la vie d'un hikikomori. Toute dernière question, on arrive presque au terme de notre échange, Agnès Jarre. Il vous est déjà arrivé, vous, de rencontrer des hikikomori ?
Rencontrer est un bien grand mot. En fait, je n'ai pas pu le voir.
Cette situation, oui, effectivement, parce que c'est...
Voilà, c'est-à-dire, j'ai été invitée à manger chez des gens qui m'ont dit, au détour d'un sushi, « Ah, notre cousin, le petit cousin, est dans sa chambre. On va lui apporter à manger. » Et donc, j'ai appris donc, que ça faisait plusieurs mois... presque un an, qu'il ne sortait pratiquement plus de chez lui et qu'il dessinait des mangas. Et évidemment, je n'ai pas pu le voir. Enfin, ça aurait été totalement déplacé.
Merci beaucoup, Agnès Jarre, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle, écrivain, journaliste, spécialiste du Japon, auteur notamment de ce blog qu'on peut retrouver sur libération.fr, les 400 Q, mais aussi plusieurs ouvrages sur le Japon. Alors, je vais les donner parce qu'ils sont vraiment excellents pour les avoir dans ma bibliothèque. Les objets du désir au Japon et puis également les histoires d'amour au Japon, des mythes fondateurs aux fables contemporaines. Un grand merci à vous, Agnès Jarre, d'avoir été avec nous ce matin. On va aller voir justement comment ce phénomène, au fond, peut s'étendre au-delà du Japon. On va retrouver à présent Alan Théo, qui est psychiatre américain depuis des années. Les États-Unis aussi seraient peut-être frappés par ce phénomène des hikikomori. C'est en tout cas la thèse de ce psychiatre américain qui avait décelé visiblement le premier cas en 2009. Depuis, Alan Théo publie des articles, il donne des conférences, il veut faire inscrire ce syndrome hikikomori au DSM-5, ce fameux manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, qui est un ouvrage de référence publié par la Société américaine de psychiatrie. Pour son premier patient, qu'il avait appelé Mr. H, découvert en 2009, Alan Théo dit que c'est la mère du hikikomori en question qu'il a contacté. Par coïncidence, ils habitaient pas très loin de son domicile. Alors, quels sont les points justement de ressemblance avec le phénomène connu du côté du Japon? Quel lien fait-il entre ce cas américain et le cas observé au Japon? Alan Théo répond au micro de Xavier Martinet. What we learn from
epidemiology. Je suis convaincu que le hikikomori ne peut exister que dans un contexte économique particulier. Et c'est un contexte qui permet à la personne d'avoir son propre espace, sa propre chambre par exemple. Et l'indépendance financière est également importante parce que le patient ne travaille pas ou ne gagne quasiment aucun argent parce qu'il est socialement isolé. Il doit donc y avoir un soutien économique et financier qui vient d'ailleurs et qui permet en fait à la personne de s'isoler socialement. Alors, effectivement, on assiste à ce phénomène et on voit apparaître cet ensemble de facteurs au Japon depuis une vingtaine d'années. Mais encore une fois, j'aimerais souligner que ce n'est vraiment pas limité au Japon. On retrouve ce contexte économique dans de nombreux pays et on a signalé des cas d'hikikomori partout dans le monde, en France, aux États-Unis et ailleurs.
Oui, et cela peut-être même particulièrement aux États-Unis, dans le Michigan où vous avez travaillé et qui est un État avec, je crois, une des plus fortes proportions de Japonais américains.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, lorsque je travaillais dans le Michigan et que j'y faisais des recherches, j'ai eu un cas très semblable à celui de MH, à savoir que c'est la famille qui m'a contacté. De toute façon, il est très rare qu'une personne souffrant de hikikomori prenne spontanément contact, précisément parce qu'elle est trop repliée sur elle-même. Mais j'avais donné une conférence sur les hikikomori à l'Université du Michigan, et c'est à la suite de cette présentation qu'une personne dont un membre de la famille souffrait d'hikikomori m'a contacté. Et là encore, par chance, il vivait près de l'université, mais c'est la mère que j'ai vue. La mère vivait avec son fils, une fois encore un cas classique de hikikomori, avec plusieurs années passées à vivre totalement reclus. Mais le fils n'a pas pu ou voulu se rendre à la clinique, et j'ai donc vu sa mère en consultation plusieurs fois. Je lui donnais des conseils et des recommandations pour qu'elle essaie de l'amadouer et de l'inciter à avoir davantage d'interactions sociales.
Donc on doit comprendre que vous avez maintenant repéré au moins 2 cas de hikikomori aux États-Unis. Est-ce que ça veut dire que vous les avez en quelque sorte activement recherchés depuis 2009? Et puis aujourd'hui, à combien est-ce que vous pourriez en estimer leur nombre?
Tout à fait. On a identifié plusieurs autres cas. J'ai publié une étude il y a 2 ans qui a identifié des cas dans 4 pays différents. Nous avons également pu identifier 11 cas aux États-Unis. Et l'un des éléments importants, c'est que nous les avons comparés en appliquant la même définition du hikikomori. Nous avons ainsi trouvé des cas de hikikomori en Inde, en Corée, au Japon. Vous avez donc des cas dans 4 pays différents en appliquant exactement la même définition du hikikomori afin d'être cohérent. Le but de cette étude, en revanche, n'était pas d'établir un chiffre total aux États-Unis. Les chiffres, les pourcentages, ça c'est un autre type d'étude. Donc ça, nous ne le savons pas. Nous ne savons pas quelle en est la fréquence, si c'est un phénomène en augmentation ou en diminution aux États-Unis. Mais je pense que nous avons au moins réussi à prouver qu'il existe aux États-Unis et qu'il ne s'agit pas simplement d'un ou deux cas isolés.
Et selon vous, alors, à quoi doit-on s'attendre? Est-ce que ça veut dire que le phénomène va beaucoup s'étendre mondialement?
Oui, en tout cas, c'est ce que nous voulons découvrir. En ce moment, d'ailleurs, nous sommes en cours de préparation d'une étude en Chine continentale. La Chine est un cas intéressant parce que la culture est par certains aspects proche de la culture japonaise. Le pays est aussi situé en Extrême-Orient. On retrouve le même type d'atmosphère familiale et d'éducation et il y a une même pression scolaire. Mais en même temps, le développement économique est assez contrasté en Chine. Bref, nous voulons voir si c'est un phénomène en expansion, s'il est fréquent ou même s'il existe tout simplement, et à quel degré. Pour l'instant, nous avons 2 pays, Hong Kong et le Japon, où nous avons identifié le phénomène dans tout le pays. Nous aimerions faire la même chose ailleurs, dans un pays comme la Chine.
Et alors, quel dispositif est-ce que vous pouvez mettre en place ici aux États-Unis si le phénomène est si massif dans son extension? Par exemple, est-ce qu'on peut mettre en place des centres de traitement plus largement? Qu'est-ce que vous attendez comme soutien de la part des autorités médicales et éventuellement politiques?
Non, nous n'avons pas ce genre de centre, pas que je sache en tout cas, aux États-Unis. Mais je pense que vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important, à savoir que si les causes sont multiples, si plusieurs facteurs déclenchent le hikikomori, alors nous devons probablement appliquer plusieurs stratégies pour traiter les patients et réduire le nombre de cas. Et je pense qu'avoir un système d'accompagnement social est particulièrement important et utile. Mais aux États-Unis, nous n'avons pas de système solide, pas comme dans d'autres pays comme le Japon ou les pays européens. Nous ne sommes malheureusement pas prêts à mettre sur pied un système de ce genre. Vous savez, mettre au point des traitements novateurs et à créer des centres de soins, ça c'est l'étape suivante. Mais malheureusement, je crois que nous en sommes encore loin, cela se compte en années. Nous devons d'abord augmenter le nombre de chercheurs et bien sûr réussir à augmenter les financements afin de pouvoir développer ces programmes thérapeutiques. Alors que vous voyez, au Japon, le gouvernement a officiellement reconnu l'existence du phénomène et a mis au point de nombreux programmes, des programmes qui sont financés au plan national et qui existent dans tout le pays.
Et d'ailleurs, pour finir, Alan Théo, puisque vous êtes également clinicien, qu'est-ce qu'il est arrivé à votre premier patient hikikomori, celui de 2009? Vous l'avez soigné, il a été guéri?
Oui, il a guéri lorsque je l'ai traité. Il avait fini son traitement, il était guéri et tout allait merveilleusement bien. Il travaillait de nouveau, il était heureux, faisait de nouvelles rencontres, se faisait de nouveaux amis. Et puis j'ai entendu dire, alors que j'avais quitté San Francisco, qu'il avait rechuté. Et on voit bien là toute l'importance dans certains cas d'un traitement en continu et de toute manière de mesures d'accompagnement social.
Alan Théo, psychiatre au Pacific Rim College of Psychiatry de Portland dans l'Oregon et auteur d'une étude intitulée « Une nouvelle forme de retrait social au Japon, les hikikomori ». Réaction, Maya Funstein, à ce propos de ce psychiatre américain bien connu qui dit « Voilà, toute la question, ça va être de voir si le phénomène est en extension ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, en tout cas, c'est la thèse que lui soutient, c'est qu'il est répandu. »
Oui, alors je pense qu'on s'accorde tous sur cette question, sur ce constat-là. Néanmoins, bon, on n'est pas tous d'accord sur la façon de l'aborder. Alan Théo défend l'idée qu'il faut que ce soit reconnu comme un trouble psychiatrique à part entière, qui va donc intégrer la liste des troubles psychiatriques existants. Ce n'est pas tout à fait notre perspective, puisqu'on essaie précisément, nous, d'articuler les questions cliniques avec des questions sociales et de ne pas systématiquement penser que tous les cas de retrait relèvent de la psychiatrie, bien au contraire.
Par ailleurs, c'est un travers général de la psychiatrie américaine que de vouloir tout ranger dans ce fameux DSM.
Voilà, justement, on insiste sur le fait qu'à l'intérieur, comme je disais tout à l'heure, des hikikomori, il y a des cas de figure assez différents. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est tout de même de poser la question de comment on peut repérer, prendre en charge, écouter ces situations. Je pense aux jeunes eux-mêmes et à leurs familles également. Il faut savoir que ce phénomène, par exemple en Italie, sont étudiés également, peut-être plus visibles d'ailleurs qu'en France. Il y a une littérature qui s'est développée un peu. Il y a notamment des structures qui maintenant portent le terme hikikomori. Alors la question, c'est comment on peut aider les personnes concernées à savoir à qui s'adresser. Est-ce qu'il faut utiliser ce terme hikikomori ? En tout cas, insister sur le retrait, la réclusion, ça c'est important.
Merci beaucoup, en tout cas, Maya Funstein, de nous avoir aidé justement à comprendre ce phénomène des hikikomori pour les auditeurs qui voudraient plonger davantage dans ces réflexions. Hikikomori, ces adolescents en retrait qui étaient parus chez Armand Collin. Vous avez co-dirigé cet ouvrage. On retrouvera évidemment les références sur le site de France Culture. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.